Bonsoir à tous, il est 15h à Washington, 19h en temps universel. On point sur l'actualité avec Abdourahman Dia. Au Burkina Faso, un policier et deux supplétifs civils enrôlés dans la lutte anti-djihadiste ont été tués dans deux attaques séparées. Selon une source sécuritaire, les policiers sont tombés dans une embuscade dans le sud-ouest du pays, une région frontalière de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Et dans la même journée de samedi, des individus armés ont attaqué un groupe de volontaires pour la défense de la patrie dans le centre nord du pays, a ajouté la même source citée par l'AFP. Les Centrafricains votaient ce dimanche pour le second tour des législatives. Le 27 décembre, les premiers tours des élections présidentielles et législatives avaient été considérablement perturbés par l'annonce une semaine plus tôt de l'offensive sur Bangui d'une coalition de groupes rebelles. Depuis plusieurs semaines, une contre-offensive a permis aux forces pro-gouvernementales de reprendre la plupart des villes aux mains des rebelles. Le Kenya ne va pas participer demain aux audiences qui doivent débuter donc devant la Cour internationale de justice à la Haye sur le différend frontalier qui l'oppose à la Somalie. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche le gouvernement Kenya dans une lettre consultée par l'AFP. La Somalie et le Kenya s'opposent depuis plusieurs années sur le tracé de leurs frontières maritimes dans l'océan Indien avec en jeu une zone de 100 000 kilomètres carrés riche en poissons et potentiellement en hydrocarbures. L'opposant kényan et ancien premier ministre Raila Odinga est sorti de l'hôpital où il était soigné après avoir été testé positif au coronavirus. « Je suis heureux d'être rentré à la maison », a annoncé Odinga ce dimanche sur Twitter dans un message accompagné d'une vidéo le montrant masqué en train de faire de l'exercice physique. « Je serai en isolation stricte jusqu'à nouvel ordre », a-t-il ajouté. Le Kenya, qui a commencé la semaine dernière sa campagne de vaccination contre le Covid-19, connaît actuellement une troisième vague de contamination avec des taux de tests positifs atteignant 13% ces derniers jours. La junte au pouvoir en Birmanie a imposé la loi martiale dimanche dans deux communes de l'agglomération de Rangoon, ce qu'a annoncé la télévision d'État. Au moins 18 personnes ont été tuées ce dimanche même en Birmanie dans des manifestations contre le coup d'État militaire, l'un des bilans les plus lourds depuis le début de ces protestations au lendemain d'un vibrant appel à la résistance contre ce que l'opposition appelle une dictature injuste. La région du Piémont dans l'est italien a décidé ce dimanche de suspendre provisoirement l'administration du vaccin AstraZeneca après la mort d'un enseignant vacciné la veille, c'est ce qu'a annoncé l'autorité de santé de la région. Il s'agit d'une mesure d'extrême caution, précaution en attendant de vérifier s'il existe un lien de causalité entre la vaccination et le décès, a expliqué un conseiller pour la santé de la région du Piémont dans un communiqué. Par ailleurs, l'Irlande a suspendu dimanche par précaution l'utilisation du vaccin AstraZeneca après que des cas de caillots sanguins ont été rapportés en Norvège. Le pape François a appelé ce dimanche à déposer les armes en Syrie et à reconstruire le tissu social à l'issue de l'anniversaire des 10 ans de la guerre meurtrière en Syrie. Je renouvelle mon appel sincère aux parties en conflit pour qu'elles donnent des signes de bonne volonté afin qu'une lueur d'espoir s'ouvre pour la population épuisée, a plaidé le pape. Le souverain pontife a déploré que 10 ans de conflits sanguinaires en Syrie ont conduit à l'une des plus grandes catastrophes humanitaires de notre temps. La guerre en Syrie a fait au moins 388 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Israël tient mardi prochain ses 4e élections législatives en moins de 2 ans, ce qui se déroule sur fond d'intenses campagnes de vaccination contre le Covid-19, devenu un précieux argument de campagne pour le premier ministre Benjamin Netanyahou. Lors des 3 derniers scrutins, le Likoud, le parti de Netanyahou, avait terminé presque à égalité avec le parti centriste de l'ancien chef de l'armée, Benny Gantz. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de VOA Afrique.
Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce dialogue des religions. Ce soir, nous revenons sur la visite historique du pape François en Irak. Eric Manirakiza avec vous, la mise en onde Lionel Runanira Gahima. Pendant 3 jours, le souverain pontife a sillonné Bagdad, Mossoul ou Karakoche dans le nord, supplicié par des djihadistes du groupe État islamique et porté la cause de l'une des plus anciennes communautés chrétiennes, mais aussi l'une des plus dispersées dans le monde, jusque devant le grand Ayatollah Ali Sistani, référence religieuse de la plupart des musulmans chiites. Le pape François a rencontré dimanche soir à Erbil, au Kurdistan irakien, le père d'Ayalan Kurdi, le petit garçon syrien mort noyé en mer Égée, devenu un tragique symbole de la crise des réfugiés en 2015. Ayalan Kurdi est mort noyé avec son frère aîné Galip et sa mère Rehana lorsque leur embarcation pneumatique avait coulé en pleine mer Égée. La famille originaire de Kobané, dans le nord de la Syrie, voulait rejoindre le Canada. Nous en parlons dans un instant. Dans ce dialogue des religions, nous aurons 2 invités, le professeur Suleiman Béchir Diagne, professeur d'histoire à Columbia University. Nous aurons également Monseigneur Janvier Marie-Gustave Yameogo, chargé de l'Afrique et du secteur francophone, secrétariat pour la communication au Vatican. Dans la première partie de cette émission, je vais commencer par vous, Suleiman Béchir Diagne. Pour la première fois dans l'histoire, un pape a visité l'Irak pendant 3 jours. Ce pays est une mosaïque aux 1000 couleurs. Vous êtes historien. En quoi, selon vous, cette visite du pape François était importante pour tous les Irakiens et pour les catholiques en particulier?
Comme vous l'avez indiqué, je suis historien des idées, historien de la philosophie, et je vous parlerai donc de la signification philosophique, si vous voulez, une signification historique et philosophique de la visite du pape. Il est en train de rendre visite en Irak à ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient. Voilà, ce sont des communautés chrétiennes très anciennes, évidemment, qui habitent dans une terre qui est la terre où les religions abrahamiques sont nés. Vous savez qu'ils souhaitent aller dans la ville pure qui est un peu le berceau des religions abrahamiques, puisque c'est la ville d'Abraham qui réunit les 3 religions. Voilà donc
l'explication
profonde. Pardon ?
Les 3 religions monothéistes.
Pardon, oui, les 3 religions monothéistes abrahamiques, christianisme, judaïsme et islam. Et donc la signification symbolique de la visite papale, évidemment, est très grande. Donc ça, c'est le côté historique, le côté symbolique de la chose. Il y a deuxièmement que c'est une terre qui aujourd'hui a souffert énormément et continue de souffrir et souffre beaucoup de l'intolérance religieuse. C'est une terre qui a connu une guerre de religion absolument sanglante et barbare récemment. Et les chrétiens d'Orient, les chrétiens irakiens minoritaires ont particulièrement souffert, ainsi que d'autres minorités. C'est la raison pour laquelle il y avait un sentiment d'urgence, une demande très forte d'abord de la part de ces communautés qui souhaitaient voir le chef de l'Église catholique venir les soutenir. Et il y avait de la part du pape un sentiment d'urgence également à aller rendre visite à ces communautés.
Vous venez de souligner l'étape à Ur, cette ville du sud irakien où est né le patriarche Abraham. Le pape a promis d'y prier avec des musulmans, des chrétiens, des yazidis et des sabéens, de religions nées en Irak bien avant la chrétienté. Au-delà de ce que vous venez de souligner, qu'est-ce que ça symbolise, ce service de prière?
Le pape, évidemment, est quelqu'un qui connaît la force des symboles. Et sa visite a également pour fonction d'ouvrir un avenir de tolérance et d'entente entre les religions. C'est vraiment un pape du dialogue des religions, et ça, c'est une conviction chez lui qu'il a manifestée à plusieurs moments. Et donc, quel meilleur moyen et quel meilleur endroit et quel meilleur moment pour lui d'affirmer sa volonté de voir s'établir un dialogue des religions que de le faire là, de prier là, non pas seulement donc en souvenir du passé, en souvenir de ce qu'a signifié la ville dure, mais également pour ouvrir un avenir nouveau dans les relations interconfessionnelles et les relations interreligieuses. Et de demander également que les communautés qui ne sont pas à strictement parler de la lignée abrahamique, ce ne sont pas les trois religions monothéistes, de se joindre à ces prières, c'est aussi une manière de renforcer l'idée que c'est une terre de religiosité et que dans sur cette terre et ces religions-là également doivent entrer dans le dialogue interconfessionnel, interreligieux, qui ne doit pas se limiter simplement aux trois religions monothéistes abrahamiques que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam.
Le pape François a rencontré la plus haute autorité religieuse d'une partie du monde chiite, le grand ayatollah Ali Sistani à Najaf, au sud de Bagdad. L'avenue du pape à Najaf est donc une main tendue vers notre grand courant de l'islam, n'est-ce pas?
Oui, et c'est important. C'est important pour lui de considérer qu'il y a un pluralisme au sein de l'islam lui-même, des lectures, des interprétations différentes, que l'islam ce n'est pas simplement l'islam sunnite, mais également l'islam chiite. D'abord, c'est cet islam-là qui aujourd'hui est majoritaire sur cette terre, et donc le geste de rendre visite à l'ayatollah Sistani est une manière, en quelque sorte, de reconnaître à la fois la prééminence chiite sur cette terre irakienne et également effectivement de signaler l'attachement à un pluralisme et donc l'attachement à une autre branche également de l'islam qui n'est pas simplement l'islam sunnite majoritaire mais l'islam chiite qui est minoritaire dans l'ensemble du monde musulman mais qui est majoritaire dans la région que le pape a visité.
Le pape en Irak, un pays dans les stigmates de la guerre, c'est un pape quand même courageux.
C'est un pape courageux parce que le danger de cette visite n'est pas nul. On le sait, c'est une terre qui a été ravagée par la violence et la violence est toujours là parce que des attentats se produisent, évidemment. On a eu récemment des bombardements sur cette terre. Il y a également, et peut-être surtout d'ailleurs, que nous vivons dans une époque de pandémie. Le pape lui-même, évidemment, est vacciné, mais les inévitables rassemblements que sa visite va provoquer ne sont pas du genre de ceux que demande la situation sanitaire aujourd'hui. Mais il a effectivement manifesté beaucoup de courage et manifesté beaucoup de ténacité parce que cette visite s'effectue sur fond d'urgence pour lui. Il a un sentiment d'urgence qui fait qu'il a été très opiniâtre. Une certaine sagesse aurait peut-être commandé de remettre ce voyage, mais il a dû se rappeler que déjà le pape Jean-Paul II devait y aller, il n'a pas pu. Le pape Benoît devait y aller, il n'a pas pu. Il a dû se dire cette fois-ci, j'y vais contre vent et marée, guidé par les principes qui sont à l'origine de sa visite. Et c'est donc là, effectivement, à la fois le courage physique du pape et le courage moral que donne la conviction d'être en mission.
Professeur Béchir Diagne, nous sommes dans le dialogue des religions. Vous l'avez souligné à travers cette visite du pape. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui croit au dialogue des religions? Est-ce que c'est possible?
Oui, je vous dirais de manière ferme, oui. Je crois que c'est possible parce que qu'est-ce que signifie au fond le dialogue des religions? Au départ, c'est la reconnaissance du pluralisme. Il est important de comprendre que le monde en général est pluriel et que le monde de la foi, lui aussi, est pluriel. Et je crois en ce dialogue parce que la reconnaissance du pluriel du monde, c'est le fait précisément d'être intéressé et attentif à la différence, de ne pas considérer que si quelqu'un est différent de moi sur le plan de ses convictions religieuses, sur sa lecture, son interprétation de la religion et de la relation de l'humain à Dieu, que sa différence est une menace pour ma propre conviction. Au contraire, c'est un enseignement pour ma conviction et c'est cela, être véritablement pluraliste. Et c'est la raison pour laquelle il faut s'engager dans ce dialogue, à la fois parce que c'est une condition pour vivre de manière paisible et riche la pluralité du monde, mais c'est également parce que c'est un enseignement pour moi-même, pour ce que je considère être ma propre conviction. Autrement dit, je dialogue avec l'autre pour apprendre de lui et apprendre sur lui. Et c'est cela qui est le fondement, me semble-t-il, du dialogue interreligieux, qui est à la fois pour la paix et pour un approfondissement de la foi. Donc il y a les deux aspects qui sont importants.
C'était aussi la conviction de l'ancien président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, n'est-ce pas?
Absolument. Le président Senghor était un centre du dialogue des religions et du dialogue des cultures. Et c'était sa conviction. Et en effet, je crois que de ce côté-là, j'ai appris de lui en travaillant sur sa pensée, en écrivant sur sa pensée. Mais encore une fois, c'est également une conviction qui me vient tout profondément du Coran et d'un passage du Coran en particulier, qui dit que les différences entre les humains ont été voulues par Dieu et que ultimement c'est lui qui à la fin pourra nous renseigner sur nos propres différences. On ne cite pas assez ce verset coranique qui est un verset du pluralisme et donc je m'appuie également sur le plan religieux sur ce verset-là et sur le plan philosophique. Effectivement, j'ai beaucoup appris de la volonté saint-corienne de toujours et encore poursuivre le dialogue des religions et des cultures.
Et ça a même aidé le Sénégal, un pays, disons, tolérant.
Oui, effectivement, ça c'est un aspect qui est très important et qui fait peut-être la force du Sénégal. Le Sénégal peut connaître des turbulences, mais il y a toujours cet esprit de tolérance et d'ouverture au pluralisme qui est d'une certaine façon la marque du pays et la chance de ce pays. Vous savez, c'est un pays où il n'est pas rare de voir au sein d'une même famille des frères et des sœurs avoir des religions différentes. Une partie de la famille pourra être musulmane, une partie de la famille pourra être chrétienne, mais la famille demeure. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que les différences religieuses peuvent ne pas nous diviser, mais au contraire, nous réunir dans le pluralisme, encore une fois.
Professeur Souleymane Béchir Diagne, merci beaucoup de votre contribution dans ce dialogue des religions.
Je vous en prie. Merci à vous.
Vatican, Monseigneur Janvier-Marie Gustave Yabeogo, chargé de l'Afrique et du secteur francophone auprès du département secrétariat pour la communication. Bonsoir, Monseigneur.
Bonsoir et bonsoir à tous vos auditeurs.
Alors, Monseigneur, est-ce que vous étiez de la visite aussi? Vous étiez de l'équipe qui accompagnait le pape?
Moi je suis resté à Rome. Mais j'avais beaucoup d'amis qui étaient de la visite et de collaborateurs. Et vraiment, ça a été une grâce de Dieu. Le pape a désiré cette visite. Vraiment, les conséquences, les fruits sont en train de s'étaler ces jours-ci. Le pape en était très heureux, ceux qui l'ont accompagné également. Et ce voyage est comme à la fois une incitation de la dernière encyclique du pape Fratelli Tutti, où le pape trace un chemin de la fraternité, de la charité, de l'amour et de l'amitié sociale entre les personnes. Cela fait suite aussi au document d'Abu Dhabi d'il y a 2 ans qui a été signé avec l'imam Al-Tayeb. Et effectivement, c'est un moment de grâce que le pape nous a permis de vivre et tous les échos que nous avons jusqu'à présent sont positifs.
Vous soulignez justement ce document sur la fraternité humaine signé il y a 2 ans et négocié en secret pendant 6 mois. Est-ce que c'est dans le même registre, cette rencontre avec le grand Ayatollah Sistani, la plus haute autorité irakienne du chiisme?
Bon, on peut dire cela, mais bien au-delà de ce registre-là, et le pape veut vraiment promouvoir le dialogue interreligieux et l'amitié entre les personnes, entre les peuples. Mettre fin à ces spirales de violence et à toutes ces guerres, c'est un fait marquant de son pontificat. Quelques mois après son pontificat, le début de son pontificat, il est allé à Lampedusa montrer sa compassion avec tous ces immigrés qui se noient à la mer et qui sont enterrés là, parfois comme des inconnus. Donc, et il a eu l'année de la miséricorde pour montrer que l'amour et le pardon sont au cœur de son ministère, de tout ce qu'il fait. Donc c'est dans ce sens-là. Et c'est vrai, il a reconnu dans l'avion qu'il ramenait à Rome, il a même dit qu'il a rencontré quelqu'un, un grand homme, un sage, un homme de Dieu, en parlant de la Cisjordanie. Et il a dit qu'il était si respectueux pendant leur rencontre que lui-même, comme pape, il se sent honoré. Et il a dit, c'est un homme, plusieurs fois il a redit, c'est un homme humble et sage. Cela m'a fait du bien à l'âme de cette rencontre. C'est une lumière, a-t-il dit. Et l'ayatollah lui-même a dit que les hommes sont soit frères par religion, soit égaux par création. Je pense que c'est un grand pas qui est fait dans le sens du dialogue interreligieux et de l'amitié entre les peuples.
Le souverain pontife a fait de l'accueil des réfugiés l'un des thèmes majeurs de son pontificat. La rencontre avec son père qui porte encore une douleur.
Oui, le père d'Alan Kurdi.
C'est ça. Qu'est-ce que le pape a voulu montrer?
Le pape a été très clair. Non, il a été très clair. Parlant du problème de la migration, il a dit que hier, quand nous revenions de Karadosh à Erbil, j'ai vu beaucoup de gens, des jeunes. Et là, il y a quelqu'un qui lui a demandé quel est l'avenir de ces jeunes. Où vont-ils aller? Beaucoup devront quitter le pays avant de partir pour le voyage. L'autre jour, vendredi, 12 réfugiés irakiens sont venus me dire au revoir. L'un d'eux avait une prothèse de jambe parce qu'il s'était enfui sous les camions et avait eu un accident. Et le pape de dire que la migration est un double droit, le droit de ne pas migrer et le droit de migrer. Et les personnes n'ont ni l'un ni l'autre, car elles ne peuvent pas ne pas migrer. Et elles ne savent pas comment. Et elles ne peuvent pas migrer parce que le monde n'a pas encore pris conscience que la migration est un droit de l'homme. C'est très fort ce qu'il a dit. Et l'autre fois, il a dit, parlant à un sociologue italien, en parlant de l'hiver démographique en Italie, il dit, mais dans 40 ans, ils vont importer des étrangers pour travailler et payer les impôts pour les retraites. Et parlant des Français, bon, et ainsi de suite. Hein. Mais il veut contraster cette immigration qui est vécue en Europe ici et en Occident comme une invasion. Et il a dit, j'ai voulu recevoir après la messe le père d'Alan Kurdi, cet enfant qui est un symbole. Et pour cela, j'ai donné une sculpture à la FAO en 2017. Le pape François a fait don à la FAO d'une sculpture en marbre blanc représentant l'enfant inanimé sur la plage, surmonté d'un ange en larmes, d'un ange qui pleurait. Et c'est un symbole qui va au-delà de cet enfant mort au cours d'une migration. Un symbole de civilisation qui meurt et qui ne peuvent pas survivre. Et le pape insiste pour que des mesures urgentes soient dans leur propre pays, pour que les gens ne soient pas obligés d'émigrer, mais aussi qu'il y ait des mesures pour protéger ceux qui ont le droit d'immigrer et qui peuvent effectivement immigrer.
Le pape François est donc aller en Irak en pèlerin de paix. Parlons de cette étape à Ur, la ville natale du patriarche Abraham, pour prier en faveur de la liberté et l'unité. Le pape voulait mettre fin à l'intention de mettre fin aux guerres et au terrorisme. Est-ce que vous pensez que le pape François a été compris?
Je pense qu'il a été bien compris. Et naturellement, on ne peut pas éviter qu'il y ait des critiques, des gens qui critiquent. Mais vous voyez, aujourd'hui, un communiqué sorti a été rendu public par le Haut Comité pour la fraternité humaine et qui revient justement sur cette rencontre interreligieuse à Our en Chaldée, et durant laquelle le pape a appelé à revivifier les valeurs de la fraternité humaine. Et selon le président de ce Haut Comité pour la fraternité humaine, il a défini cette visite-là en Irak comme un baume sur les blessures du peuple irakien après des années de guerre et de destruction. Un appel à la tolérance et à la convergence des valeurs de citoyenneté et de coexistence entre tous les Irakiens. et tous les peuples de la région. Et il a dit clairement dans cette déclaration-là que c'est la meilleure réponse aux appels à la haine et à l'extrémisme qui a pris les vies de tant de personnes et déplacé des milliers d'innocents. Donc, il reconnaît que cette visite est une application concrète du document sur la fraternité d'Abu Dhabi. Et d'ailleurs, ils ont pris sur eux, ils ont décidé de donner une suite, de préparer une étude sur les résultats de cette visite afin de continuer de persévérer dans le sens du dialogue et de l'amitié sociale.
Monseigneur Yameogo, vous êtes africain. Quelles leçons tirer pour les Africains et en particulier les croyants?
Alors, la première chose que je voudrais souligner, c'est que jusqu'à ces dernières années, surtout dans l'Afrique subsaharienne, moi-même je viens d'une famille où il y a toutes les religions, depuis la religion traditionnelle des musulmans et divers groupes évangéliques, des protestants. Et moi-même, je suis prêtre. J'ai un oncle qui est imam. J'ai un autre oncle qui est pasteur protestant. Et cela se passe bien. Actuellement, ce nouveau phénomène de l'extrémisme des religions, en fait, ce sont des manipulations qui viennent d'ailleurs avec d'autres agendas pour, en fait, diviser les peuples. Donc l'Afrique reçoit, j'allais dire, 200% ce message d'amitié entre les peuples et justement ce dialogue de la vie, aller rencontrer les autres. Dans nos pays, à nous, on n'a pas une fête de Noël où il n'y a pas des musulmans qui sont avec les chrétiens à l'église. On n'a pas une fête de musulmans où on n'a pas des chrétiens, des jeunes chrétiens qui vont jouer avec les jeunes musulmans. Et bon, vous voyez par exemple le cas de Ouagadougou. Le cardinal est toujours présent à la prière des grandes fêtes des musulmans et ainsi de suite. Donc c'est déjà quelque chose de pratique et j'allais ajouter que dans la sous-région, que ce soit au Sénégal, au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, je peux citer au moins dans ces pays-là le cas d'un prêtre catholique qui est fils d'un imam. Donc vraiment, je pense que cela se vit déjà et j'ajouterais quand même quelque chose, une mise en garde que le pape a dit, que ces gens qui se battent avec les armes-là, qui leur vend les armes, d'où ça vient? Donc là aussi, c'est aussi la question de l'utilisation des religions justement pour faire des guerres, pour diviser les gens au lieu de favoriser le dialogue.
Est-ce que ce n'est pas plutôt important de désarmer les cœurs?
Quand le pape pose la question, c'est parce que justement pour lui, il l'a répété d'ailleurs tout le temps. Je vous remercie de relever cela. Parce que le pape lui-même parle toujours de désarmer nos cœurs, désarmer nos cœurs. Dans Fratelli Tutti, encore, c'est les qualités de bienveillance, de miséricorde, de pardon les uns vis-à-vis des autres. C'est ça que le pape vraiment souhaite pour notre humanité. Et je reviens encore sur ces deux mots phares-là où il dit l'appel à la fraternité et à l'amitié sociale. Et vous savez qu'il va jusqu'à envisager que la politique soit vécue comme l'amour vraiment fraternel, l'amour social, l'amitié sociale mise en pratique. Et dans ce sens, effectivement, bon, au lieu d'exploiter les plus pauvres, justement, tous ces appels, c'est s'occuper des plus défavorisés, des personnes les plus fragiles.
Monseigneur Janvier Marie-Gustave Yameogo, merci beaucoup pour vos éclaircissements sur la visite du pape François en Irak. Merci.
Ben, merci à vous et je souhaite que nos auditeurs aussi en prennent exemple et que nous désarmions nos cœurs, comme vous avez vous-même dit, pour être accueillants les uns vis-à-vis des autres et pour risquer toujours ce dialogue en allant visiter même ceux qui ne pensent pas comme nous. C'est cela qui peut nous aider à construire un monde meilleur. Et Martin Luther King disait que où nous vivons comme des frères, où nous allons mourir comme des imbéciles. Merci.
C'est moi qui vous remercie, Monseigneur Yameogo. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette édition de ce dialogue des religions consacré sur la visite du pape, une visite historique en Irak. Lionel Lunaïda-Gahima a assuré la mise en onde. Eric Manilakis a été avec vous. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Je vous retrouve mercredi prochain. Au revoir.